cours de ma visite à l'appart de l'Odev, j'ai pu aussi faire la connaissance de Xavier Doll, artiste et éditeur chez Le Chant des Muses, qui vient tout juste d'installer son atelier au sein du bâtiment. À cette occasion, une expo d'une collection nommée Les Boules Funéraires a fait son apparition dans le vieil immeuble du 2 novembre jusqu'au 10 décembre, jour où nous nous sommes entretenus. Mais Xavier Doll n'est pas un artiste comme les autres. Entouré de ses mystérieuses images ainsi que de quelques BD, il balaya d'un revers de la main la sempiternelle présentation et rétrospective de son parcours. Préférant parler du présent plutôt que du passé, il nous a partagé sa manière de créer avec l'intelligence artificielle. Et oui, car ces images sorties tout droit d'une civilisation antique éperdue d'un volume de métal hurlant n'ont pas été façonnées par la main de l'homme, bien que derrière la machine se trouvait Monsieur Doll.
Pour sécher et transformer la pâte à papier, je travaille toute la journée sur des machines craignos. Ouais mon gars, vraiment craignos. Pièces mécaniques en mouvement, pièces mécaniques en mouvement, qui me donne chaud aux fesses, un pas de côté crac, t'es broyé.
En fait, j'ai 66 ans, donc je suis un vieux bonhomme. J'avais jamais exposé, j'avais pratiquement jamais fait d'exposition quoi, jusqu'ici. Quoi. Donc c'est vraiment une plante très tardive. Quoi. sur la fin de la vie, je m'occupe un peu de moi et de ma passion, qui est constante. Ma passion, elle est là, c'est toujours un peu la même, c'est les images. J'ai toujours aimé les images depuis que j'existe, je crois. J'aime bien me dire que je suis imagier. Je fais des images. J'ai fait pas mal de musique aussi dans ma vie, mais pour moi, la musique, c'était aussi une affaire d'image, en fait. Quand je me retrouvais au milieu de musiciens, j'avais toujours un peu du mal à parler avec eux parce qu'ils me parlaient de grilles d'accords, d'harmonie. Et moi, j'étais un peu perdu parce que j'ai toujours... Quand je fais de la musique, je cherche... Je cherche à me retrouver dans un univers, dans une ambiance. Donc je suis toujours relié un peu à des images. Quoi. Et actuellement, je fais des images à partir de l'IA, qui est quelque chose d'assez peu polémique actuellement. L'IA, c'est un sujet qui est plutôt difficile à aborder aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça pose des problèmes très sérieux. Comme la surveillance de masse, enfin, il y a des tas de choses qu'on peut faire avec l'IA qui ne sont pas du tout sympathiques. J'ai été très vite curieux à partir du moment où sont sortis, parce qu'il y a eu plusieurs modèles d'IA qui sont sortis en même temps pour faire des images, en fait. Quoi. Le premier modèle, ce n'était pas le premier modèle vraiment, c'était le premier modèle, disons, que le public pouvait s'en servir. Ça doit dater de 2 ans et demi à peu près. Et dont un modèle qui était en licence libre. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les licences libres, ce sont des licences permissives. C'est-à-dire c'est pas, contrairement à un logiciel, vous savez, comme Windows, vous ne pouvez pas copier, vous ne pouvez pas ceci, etc. Donc ben là, c'est un peu un choix différent que font les entreprises ou les organismes qui éditent ce genre de choses en logiciel libre. Elles permettent notamment à des programmeurs de prendre le code des outils pour le faire évoluer, pour créer d'autres outils autour qui permettent de travailler différemment, etc., ou de le compléter, ou de l'enrichir. Donc il y a un microcosme autour de l'outil qui se crée et qui en font souvent des outils très intéressants. Ouais. Donc moi, je me suis servi d'un modèle comme ça qui était en licence libre, donc j'ai pu l'installer chez moi, contrairement aux IA propriétaires qui, en général, on peut s'en servir uniquement en ligne, c'est-à-dire sur leur serveur, on prend un abonnement et on paye pour les images qu'on génère. Moi, j'ai tout installé chez moi, ça se fait entièrement en local et avec des outils un peu particuliers qui permettent... Ça se rapprocherait plus, plutôt que d'avoir juste une petite fenêtre pour taper un prompt. Ce qu'on appelle un prompt, c'est un petit texte qu'on tape qui permet de demander à l'IA quelque chose, quoi, voilà. Donc il n'y a pas que ça, en fait, et moi, ça ressemble plus, ma station de travail avec l'IA, à un synthétiseur de l'ancien temps, c'est-à-dire Je ne sais pas si vous avez déjà vu Tangerine Dream ou Klaus Schulze ou des gens comme ça jouer de la musique. Ils ont des immenses, ils ont carrément un mur de modules qui sont reliés entre eux et avec plein de petits potards, avec des fiches, ils entrent des fiches, ils en sortent d'un module, ils les entrent dans un autre module, etc. Donc ils font plein de choses, ils génèrent leur son d'une manière un peu, ils créent des circuits électroniques en fait entre des différents modules. Donc voilà, pour vous faire une idée quoi. Sauf que moi ça se passe sur écran, mais je tire des câbles effectivement virtuels, donc contre des petites boîtes que je relie entre elles pour générer mes images. Donc c'est un travail passionnant, vraiment passionnant. Alors évidemment, le discours autour de l'IA notamment, enfin le discours qui a été émis par les boîtes, les grosses boîtes qui font ces modèles, c'est du marketing. Et j'entends dire, ah ouais, mais c'est juste, on tape un truc et puis paf, on a une image. Oui, on tape un truc et on a une image. Mais l'IA, c'est un outil statistique. Donc si on tape un truc, on va avoir statistiquement l'image qui se reliera effectivement le plus souvent aux mots qu'on vient de taper. Ça veut dire qu'on va avoir des images clichés, puisque la masse d'images qui est dans ces modèles d'IA est gigantesque, mais en fait, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de mainstream, enfin d'images clichés qui circulent partout sur le net. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, si je tape un mot simple comme « une femme », à 99% de chance, on va avoir une jeune femme dans les canons de beauté de notre époque, blanche. Parce que pourquoi on a ça? C'est pas parce qu'ils ont décidé qu'une femme c'était jeune, blanc, beau, etc., etc. C'est parce que la masse d'images qui circulent sur le net de femmes est constituée principalement de ce genre d'images. Donc statistiquement, l'IA va nous donner ce qui lui est le plus familier, finalement. Si on veut dépasser le stade du cliché, il faut commencer à travailler sur le prompt, bien sûr, sur le texte qu'on va lui donner, être beaucoup plus précis sur sa demande, la bousculer un peu pour voir ce qu'elle a un peu dans les tripes. Moi, j'ai tendance à dire un peu ça comme ça. On va fouiller, on va essayer de fouiller un peu plus profond, quoi. Et il y a des tas de moyens pour le faire, il y a évidemment le texte qu'on va lui donner, mais il y a d'autres moyens. On peut aussi la troubler en lui donnant plusieurs textes en même temps. C'est là où les outils comme celui que j'ai, avec lequel je travaille, est intéressant, c'est qu'on peut, au lieu d'avoir une seule fenêtre pour donner un texte, on peut en mettre deux, ou voire trois, et puis un dessin en plus. Et puis tout ça, le donner à manger en même temps, à l'IA. Et si je lui donne par exemple d'un côté une tête d'homme, et puis de l'autre côté je lui donne une boule en métal rouillée, avec pleine de trous, avec des fentes de tous les côtés, vieille, en mauvais état. Donc le premier prompt, c'est une tête de femme, par exemple, âgée. Bon, je peux préciser plus, souvent je précise beaucoup plus, et puis je fais bouger mes textes au fur et à mesure que je génère des images. Et je lui donne à manger en même temps ces deux choses-là. Et en fait, c'est pas logique, il sait pas quoi en faire. Parce que c'est pas quelque chose qui existe pour lui directement. Et donc, il va lutter. Il va faire comme intérieurement, il va y avoir un conflit, il va essayer de le résoudre. Et vu que ce machin-là est fait finalement pour produire pas forcément du vrai, vous savez bien que j'ai ChatGPT, des fois il dit n'importe quoi quand il sait pas. Il n'a pas appris ChatGPT à dire « je ne sais pas ». Et donc, quand il ne sait pas, il commence à débiter des trucs statistiquement qui ressemblent un peu à ce que vous lui donnez, etc. Mais c'est, en fait, il est dans le brouillard, il ne sait pas du tout ce qu'il fait, quoi. Il essaye de faire un truc qui est cohérent. Et ça peut être faux, complètement faux, mais cohérent. Alors, pour l'imagerie, ça peut être très intéressant, ce problème. Quand on lui donne des choses à manger, donc comme je viens de vous dire, des choses opposées, enfin, pas forcément opposées, mais en tout cas différentes, même si il comprend pas, il va tâcher de produire une image avec ces choses-là qui soient crédibles. Donc l'exposition avec laquelle j'ai ouvert mon atelier, qui est une exposition, j'ai appelé ça des boules funéraires, Mais c'est pas un truc que je voulais faire au départ. Boule funéraire, le terme boule funéraire n'était pas là avant. C'est simplement que je me suis dit à un moment donné, en travaillant avec l'IA, ce serait marrant de travailler avec les analogies de forme, quoi. Donc je me suis dit, une sphère et une tête, c'est pas très loin. Peut-être que l'IA, il pourrait arriver à produire des images entre les deux qui soient intéressantes. Il va se planter souvent, mais il va parfois avoir des choses qui vont sortir qui seront intéressantes. Et donc je lui ai donné deux prompts, plus encore une forme, une sphère. Enfin, j'ai dessiné en fait un simple cercle que je lui ai donné à manger pour lui suggérer d'inscrire le plus possible ce qu'il allait faire, l'inscrire le plus près possible de la forme d'un cercle. Voilà. Je me suis retrouvé au bout d'un moment avec des images très troublante. Bon, j'avais commencé à, pour être plus précis encore, j'avais dit effectivement une sphère en métal, mais parfois je mettais plusieurs métaux ou du bois, ou je variais mes textes en variant beaucoup les matériaux. Mais toujours j'avais, ça je pense que c'est moi qui ai une empathie avec les choses qui sont en train de mourir, les choses qui sont en train de se détruire, que le temps a passé. C'est une empathie, je pense. On est tous êtres humains, les êtres humains, on sait qu'on va vers la mort, quoi. On va vers la destruction. Et donc, j'ai mis ça dans le texte aussi que je lui donnais, pour la forme, pour la sphère. Ce sont des sphères trouées, il y a plein de trous, en fait, dans ces têtes, ces têtes sphères. Au début, j'avais pas mis des trous, mais il me faisait des sculptures, en fait. Ça m'intéressait pas, je voulais pas faire des sculptures, j'avais envie que ce soit des objets qui puissent avoir un usage indéterminé, mais alors je lui donnais des éléments comme des poignées, des vis, un robinet, donc c'est tout ça mélangé. Bon, il m'a jamais donné de robinet, il n'y arrivait pas apparemment. De temps en temps, il y a une poignée qui apparaissait, et les trous tout de suite, dès que j'ai dit ça devenait un objet, on se demandait qu'est-ce que c'est que cet objet, à quoi ça pouvait servir, quoi. On se pose la question en voyant ces images, du coup. C'est une tête, mais non, c'est un objet usuel, quoi. Et ça m'intéressait beaucoup. Et du coup, j'ai creusé ça, je me suis retrouvé avec une série de sphères-têtes. Et moi-même, je me posais les questions, je me disais, qu'est-ce que c'est l'usage de ces choses? C'est pas un panier pour essorer la salade, quand même, quoi. c'est avec ces visages. Et ben, c'est venu naturellement, ce sont des objets funéraires, en fait, hein, qui devaient être utilisés dans des rituels, par une civilisation ancienne, certainement, puisque c'est des objets qui doivent venir de fouilles, certainement, parce qu'ils sont quand même très abîmés. Et petit à petit, donc il y a une histoire qui s'est construite, que je commence à écrire d'ailleurs un peu. Et c'est même devenu plus précis pour moi, c'est devenu des visages de défunts, quoi. Après, c'est évidemment mon interprétation à moi. Les gens qui viennent voir l'exposition, je livre pas les clés au début. C'est-à-dire que l'exposition, quand les gens rentrent, souvent ils pensent que ce sont des photos d'objets réels. C'est-à-dire, c'est photographique. Ce sont des images qu'on identifie à des photographies, alors que ce ne sont pas des photographies, bien entendu, puisque les objets n'existent pas. Mais quand on les voit, si on n'est pas averti, on a l'impression que ce sont des objets réels. Et donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent « Vous faites ça avec comment ?» c'est de la terre, c'est du fer. Ou alors même quelqu'un qui m'a dit « Mais ce sont des photos des objets, mais les objets sont exposés quelque part ailleurs. » J'ai des questions comme ça de gens qui se laissent vraiment prendre par l'illusion de l'image, quoi, par l'illusion photographique. S'ils parcourent l'expo, il y a des textes après qui explique que ce sont que des images, ce sont des fantômes. En fait, il n'y a pas d'autre de réalité physique à part ces images. Et je pense qu'une chose qui trouble beaucoup les gens aussi, parce que je les vois souvent fascinés par les regards de ces visages en fer ou en terre. Il y a un contraste fort entre les traits qui sont très naturels souvent. On a l'impression qu'ils vont nous dire quelque chose presque, qu'ils nous regardent en tous les cas. Et ce contraste avec un objet qui est en fer, qui est rigide, c'est quelque chose de rigide, mort, c'est extrêmement troublant en fait. C'est un peu le trouble qu'on peut avoir devant certaines sculptures, effectivement, en marbre. Parce que les statues en marbre souvent sont très hiératiques, très posées, sans expression un peu. Alors que là, on sent des tas d'émotions qui filtrent. De la tristesse ou peut-être ou de la paix. En fait, je pense que les gens, ils voient un peu ce qu'ils ont en eux. C'est des miroirs un peu, ces images. Il y a des gens qui voient des monstres, il y a des gens qui... ça les apaise. Il y a des gens qui se mêlent au regard. Et c'est vraiment une fascination. Ouais.
Comme tu en parlais, c'est vrai que quand on rentre dans cette salle et qu'on voit toutes ces images, comment l'IA a réussi à faire quelque chose d'aussi net, précis, pour que ça paraisse réellement comme des photographies, en fait.
C'est pas gagné. C'est-à-dire que je travaille comme un artiste classique, en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire que je commence par générer des images qui ont une très faible résolution, 1000 pixels sur 1000 pixels, c'est-à-dire que ça occupe un quart d'écran d'ordinateur actuel, quoi. Donc, c'est pas du tout la définition pour avoir une image très définie, imprimée sur papier, à cette taille-là, quoi. Donc, c'est comme un croquis. La première, c'est comme un peintre, il va commencer par faire une composition rapide, mais il va situer ses éléments. À peu près, c'est là, mais c'est schématique, c'est un schéma, quoi. Et ensuite de ça, je pars de cette première image, je la rentre dans mon logiciel de peinture numérique, et je commence à travailler le fond, les ombres autour, comme s'ils étaient un peu exposés dans un musée avec une belle lumière autour, une ombre portée au sol, des choses comme ça. Et je retouche un peu aussi la boule elle-même, parce qu'il y a des bugs. Surtout sur des sujets comme ça qu'elle connaît pas, en fait, elle fait des... Il y a des erreurs c'est des erreurs, en fait. Ces images sont des pures erreurs d'IA, mais des fois elle fait des erreurs qui ne me conviennent pas, à moi, qui ne me vont pas, donc je les corrige, je peins, je repeins certaines parties, etc. Et ensuite de ça, je la repasse dans l'IA, l'image même que je viens de travailler, et je l'agrandis avec un texte un peu différent, où je n'ai plus besoin de dire à l'IA que c'est une boule, puisqu'elle le voit, elle reconnaît l'image. Je peux me consacrer à lui demander des textures plus précisément. Les yeux, est-ce qu'ils sont en vert, préciser les matières. Et donc je fais un premier agrandissement. Disons, je double par exemple la surface. Je reprends cette deuxième couche, donc je la retravaille encore en peinture. Et je redonne à manger encore une fois. La plupart, il y a eu trois phases d'agrandissement comme ça pour arriver à avoir une image d'une définition où les matières deviennent d'une précision. Son sujet principal dans ces générations-là devient non plus la tête ou la boule, ça devient les textures elles-mêmes, quoi. Et donc il se consacre complètement à ça. Et du coup, j'arrive à avoir des textures, mais d'une finesse, un piqué incroyable, quoi.
Derrière toi, je vois une boule. Est-ce que c'est une reproduction du coup réelle de ce qui a été fait en IA ici sur cette expo? Alors est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre?
Moi, j'ai pas besoin de les voir en vrai, ces boules-là. J'aime même l'idée qu'elles n'existent pas. Est-ce qu'elles auraient autant de charme si elles existaient? Je suis pas convaincu. Ou alors, il faudrait qu'elles soient extrêmement bien faites, quoi. La force de ces images, c'est qu'on y croit. Et pour arriver à en faire une en vrai, pour la rendre vraiment crédible, je pense qu'il faut être un bon ferronnier, quoi. ou un bon, un très très bon artisan en fait. Mais vu qu'il y a des gens qui avaient quand même envie d'en voir en vrai, je me suis demandé s'il n'y avait pas un artisan quelque part dans le coin qui serait capable. Et donc il y a un gars qui s'appelle Didier Scuderoni, qui a son atelier d'ailleurs pas loin de l'appart à Lodève, qui est un excellent décorateur et il est bon pour faire des faux objets. Le jour de l'inauguration de mon exposition, je lui avais demandé si ça l'intéresserait d'en faire, donc il ne m'avait pas dit oui. Bon, et puis le matin du barnissage, il est venu avec cette boule qu'on voit sur la cheminée de l'atelier, une boule funéraire, et en me disant « Ouais, bon, j'ai fait ça vite et tout ça, vite fait, et tout ça avant de venir, et tout ça. » Bon, effectivement, vite fait avant de venir, c'est déjà pas mal, quoi, je trouve, quoi. Après, je pense que c'est pas assez... il faudrait beaucoup plus de travail, à mon avis, pour que ça devienne un objet crédible. On se dit pas « C'est un objet qui sort de fouilles archéologiques, quoi. » Donc, pour arriver à y croire, il faudrait qu'effectivement, qu'on ait cette sensation que c'est vraiment un vieil objet rouillé, qui est un peu en moyennement bon état ou même en mauvais état. Ce serait énormément de travail, je pense. Ouais.
On va conclure cette longue discussion. Est-ce que tu as un site web, ouais, une page?
Oui, j'ai un blog. Hein, j'ai un blog en pleine organisation. Alors, ça s'appelle Rigolard. C'est pas un D qui est à la fin de Rigolard, c'est un T, puisque c'est de l'art, Rigolart. Point, le chant des muses. Le chant, pas le chant des mules, hein, c'est pas un chant avec de l'herbe. Hein. Le chant, le chant des muses. Ah, oh, les muses, c'est beau les muses, voilà. En un mot, point fr. Voilà, si vous allez là, vous trouverez mon petit blog. Voilà.
Un dernier mot peut-être?
Sprotz.
C'est la fin de cette quatrième et dernière partie sur les artistes de Lodève, de l'appart, entre autres. Vous pourrez retrouver Xavier dans son atelier ainsi que sur ses réseaux. RPH remercie le collectif des Impromptus, l'appart, Just a Hub, Jean-François Caudry, Jean-François Aubert et Xavier Doll de s'être entretenu avec nous. Et bien sûr, merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir écouté cette émission. Radio Pays d'Hérault vous invite bien sûr à visiter de votre côté les plusieurs galeries de la ville. Peut-être dans le futur, nous aurons l'occasion d'à nouveau explorer l'art de différents créateurs de Lodève ou d'ailleurs. En attendant, je vous laisse sur cette chanson créée par IA et écrite par Xavier lors de l'événement Ça cartonne qui a eu lieu à Lodève l'année passée. A la prochaine sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.
Tous tes petits cadeaux. Oui, je m'en fous tant que tu me fais des petits cœurs.